mode d'emploi.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission 106.3. Dans l'émission mode d'emploi, pardon, 106.3 de la bande FM. C'est l'émission mode d'emploi avec l'équipe historique d'AC. AC, c'est Agir Ensemble contre le chômage. Et ce soir, on reçoit un invité spécial, donc Bruno Mécano de l'émission qui nous suit. Et on parlera, si nous avons le temps, des suites de la réforme de l'assurance chômage et de 2-3 bricoles.
Comme d'habitude, quoi, un petit peu, oui, voilà.
Bonsoir, bonsoir Bruno.
Bonsoir, je suis ravi d'être invité par vous.
Salut à toi, oui.
C'est un honneur.
Ah oui, c'est gentil, mais on est ravi de te recevoir. C'est aussi un grand honneur. Alors, je suis obligé de te présenter parce que les auditeurs de mode d'emploi ne sont pas forcément les auditeurs de SM.
On est d'accord.
Donc, tu es l'animateur de SM, Stress et Mécano, qui nous suit. Hein. Et alors, on a décidé de t'inviter puisque tu as un parcours qui est. Qui est dense, hein, t'es, c'est des, donc tu es évidemment tu es l'animateur hein, de l'émission qui suit, mais tu es aussi journaliste de presse écrite, alors plus précisément maquettiste.
Exactement.
Et tu as travaillé 40 ans dans la presse écrite.
Avant, ouais.
Voilà. Avant que
à l'ancienne époque, on va dire, à l'époque où on travaillait encore avec les cutters, les exactos, on coupait les bandes, il y avait des clavistes qui tapé au kilomètre.
Et tu as vu tous les changements technologiques, hein,
absolument, sur,
particulièrement
ouais.
dans la maquette, hein, puisque c'est là où il y a eu vraiment un grand. On en parlera tout à l'heure hein, de la PAO. Et tu et puis finalement, ton employeur a peut-être estimé que tu lui coûtais trop cher. Ça, on ne sait pas. Tu nous le dis.
Bah oui, je te raconterai un peu tout ça. Oui.
Et donc tu fais partie désormais des ni en emploi ni en retraite en fait. Hein,
bah, je suis entre les deux en fait. Je suis chômeur hein, et j'arrive sur ma retraite quoi. Bah, mais j'ai pas fini ma carrière en fait. J'ai fini ma carrière en dents de scie, on va dire. Enfin, pas en dents de scie, en coupie dans le cul. On m'a foutu dehors parce qu'on a estimé que bah, 59 ans et demi, c'était bon quoi. Il fallait faire le ménage.
Comme plein d'autres gens.
Et voilà, plein d'autres professions aussi.
Plein d'autres professions. Voilà, alors. Moi, je te poser une première question. C'est vrai que travailler dans la presse, alors travailler dans la presse écrite, parce que c'est pas forcément, il y a beaucoup de gens qui rêvent de télévision, de radio, mais travailler dans la presse écrite, dans la presse parisienne, ça reste quelque chose
de noble,
mais d'attractif, ouais, d'extrêmement attractif, même peut-être encore pour des jeunes aujourd'hui, malgré tout, hein, qui se souviennent.
Ah, moi, je pense qu'il y a des jeunes qui sortent des écoles de journalistes. Moi, j'ai fait une école d'art parce que je suis maquettiste, mais ceux qui écrivent, je pense que pour eux, effectivement, la presse écrite, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai que bon, la télévision, effectivement, la radio aussi, mais la presse écrite, c'est autre chose. On est dans un autre domaine. Et puis, un peu de fierté à écrire des papiers parce que les gens les lisent. Donc, c'est, le rapport est différent.
Oui, le rapport est différent dans la conception. Hein, c'est un peu plus cérébral, c'est un peu plus.
Absolument.
Et puis, le temps que prennent les gens pour le lire.
Puis, la démarche aussi de lire un papier
dans,
sur un quotidien. Par exemple, la démarche d'entamer un papier et puis de le lire jusqu'au bout. Alors qu'à la télévision, on est passif. Là, on est actif.
Voilà. Alors, la radio est un média intermédiaire, mais on ne voulait évidemment pas dire que les gens qui font de la radio sont des fainéants, loin de nous
aider. Pas du tout.
Mais pas du tout.
Non, mais s'il vous plaît.
S'ils sont écoutés.
Voilà. Ils sont écoutés. Vous êtes écoutés, nous sommes écoutés.
Alors, toi, tu as connu une période hein, qui était différente, une période où on prenait peut-être plus le temps, peut-être une période où il y avait moins peut-être de précarité aussi dans la presse.
Il y avait moins de précarité parce qu'il y avait plus de gens qui travaillaient, parce que bon, pour faire court un peu, bon, moi j'ai vécu la première période, c'est-à-dire la période dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la maquette traditionnelle avec, on appelle ça des clavistes. Les clavistes rentraient des codes, les journalistes leur amenaient leurs papiers, eux rentraient des codes qui correspondaient à des caractère, à des polices de caractère, et ces bandes après étaient développées, et les maquettistes recevaient après toutes ces bandes, revues par la secrétaire de rédaction. Enfin, il y avait tout un cheminement qui était assez long. Il n'y avait pas la PAO, il n'y avait pas l'ordinateur, il faut se remettre dans l'époque aussi, hein. Pas de portable évidemment, on l'imagine bien. Et après ces bandes arrivaient, et en parallèle, les photos étaient tramées, donc passées sur des bandes de reproduction, ce qu'on appelait des bandes de reproduction, avec des tramages différents suivant les supports qu'on était quotidien sur un papier journal ou magazine sur un papier glacé. Les tramages étaient différents et voilà. Et donc tout ça arrivait dans mes mains à moi. Et par rapport à toutes ces photos que je recevais, que je coupais à l'exacto, au cutter, pour plus clair pour les gens qui nous écoutent, et puis les bandes que je coupais aussi au cutter, après il y avait une mise en page à faire.
Alors pour expliquer aux jeunes, hein, qui peut-être ne visualisent absolument pas, c'est en fait Bruno joue le rôle d'un intégrateur aujourd'hui de texte tel que peut l'être Quark Express,
voilà,
texte et image,
exactement. Texte et image, voilà.
Et donc quelque chose à haute valeur, j'allais dire ajouté à haute technicité, peut-être le terme est plus
exact. C'est-à-dire qu'il fallait être très manuel quand même à l'époque, hein. J'ai travaillé à l'exacto quand il y avait une faute de carré, enfin, après le SCR passait toujours derrière le secrétaire de rédaction, excusez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas le raccourci. Aussi, ouais. Mais c'est vrai que, bon, il y avait des fautes. Il arrivait quand même qu'on se rende compte qu'une fois que la page était finie, donc le texte mis en page avec les photos, il y a encore quelques petites fautes ou des petites coquilles. Il fallait finir ça à la main avec un exacto qui était très pointu, découpé caractère par caractère et recollé. Donc ça demandait beaucoup de précision. C'était très... effectivement, on travaillait à la loupe.
Et ça, c'était dans les années 70, 80 ?
80. On parle des années 80 jusqu'à l'arrivée de la PAO. Mmh. Moi, j'ai vécu ce virage-là dans un journal dans lequel je travaillais, qui était un mensuel qui s'appelait Guépiedo, qui était un journal donc, qui était d'abord hebdo, qui est après passé en mensuel. Et moi, j'ai vécu ça là-bas. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on m'a formé le week-end pour gagner un peu de sous. Parce que le journal n'était pas riche. J'étais un journal militant homosexuel. Vous imaginez bien que les sous n'étaient pas là. Mais pour autant, c'était le patron qui nous a formés tous les week-ends à la PAO pour mettre en page. Et un jour, on m'a dit, maintenant, tu te démerdes.
Alors, justement, sur la précédente période, du coup, ça prenait quand même beaucoup plus de temps pour faire un journal qu'aujourd'hui.
Ah, ça prenait plus de temps, et puis on n'était pas tout seul.
Oui.
C'est qu'en ce cas-là, on était entre deux ou trois personnes. Quand la PAO est arrivée, tout de suite, on a pu diviser par deux. Les clavistes ont disparu. C'est ceux qui tapaient le texte, évidemment. La PAO faisait qu'on avait les textes directement sous un fichier qui s'appelait Word. Moi, j'ai commencé à travailler en PAO à l'époque, c'était... je me souviens plus du logiciel.
C'est 90, 92
90, et c'était...
Illustrator, un truc comme ça?
Non. C'était un truc des mises en page avant InDesign et...
Express,
avant Express. C'était IBM. Enfin, c'était PC à l'époque.
Ah,
c'était
oui, d'accord.
Pas du tout Mac, c'était PC.
Et juste sur la période précédente, est-ce que, en termes de conditions de travail, est-ce que la précarité, tu l'as vécu pendant cette période?
Non.
Est-ce que,
non.
Donc, il y avait des débouchés.
Il y avait toujours du travail. Moi, je sais que j'ai quitté même des boîtes à l'époque. J'ai travaillé de nuit aussi sur des mensuels, comme le Caravanier, comme des magazines de moto, des choses comme ça. Il y avait toujours du travail, toujours. C'est-à-dire, on quittait une boîte, on pouvait aller dans une autre. Après, j'ai travaillé aussi pour Télépoche, par exemple. Il y avait toujours du boulot. On se présentait dans une boîte, il y avait du travail.
On traversait la rue, on trouvait du travail. Quoi.
Absolument. Ouais. Comme disait Macron, à l'époque, c'était une autre époque.
Et alors du coup, arrive la... Donc, la presse se portait pas si mal, hein, la presse écrite finalement.
Les gens lisaient à l'époque, les gens lisaient du papier en tout cas. Maintenant, ils en lisent beaucoup moins, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que la PAO a divisé, voilà, effectivement, comme je te disais, par deux le nombre d'intervenants.
Alors voilà, on a vendu la PAO comme un truc exceptionnel, des gains de productivité. Moi, j'entendais ça à l'époque en permanence,
oui.
Et en réalité finalement c'est un saut technologique qui a supprimé des emplois,
oui,
en fait, hein, et qui a accéléré aussi les cadences.
On a pu après se dire, on peut peut-être, si on fait un canard, on peut peut-être en faire deux. Après, non, je ne parle pas de journaux proprement dit, de structures intégrées aux journaux, mais je parle de gens de boîtes qui faisaient des canards. J'en ai travaillé aussi dans ces boîtes-là, et qui maintenant, au lieu d'en faire 5, ils vont en faire 10, ils vont en faire 15, ils vont après baisser les coûts, baisser les prix, revendre au moins 10 ans. Moins on paye, en face, nous, les clients, ils sont contents, et puis on fait rentrer plus de clients. Et puis avec moins de gens. Donc forcément,
Donc, quelque part, il y a eu des gagnants et des perdants, hein, puisque finalement, il y a une offre de journaux, mais qui sont tenus peut-être plus ou moins par les mêmes éditeurs. Si on te suit bien, et finalement, enfin, au profit finalement de l'actionnaire qui possède le journal.
On est complètement dans cette cas de figure. Mais maintenant c'est encore pire. Enfin, je veux dire, moi j'ai quitté ce travail maintenant voilà 2 ans et c'était de pire en pire parce que maintenant on va chercher des étudiants sortis d'école de graphisme en ce qui me concerne et moi j'en ai vu plein. Dans la dernière boîte que je vais pas citer, mais où j'ai travaillé, et ben maintenant on était dans un cas de figure, on prenait que des stagiaires à 400 euros avec les tickets restaurants en plus. Ils étaient très contents, les stagiaires, et pour faire le même boulot que nous.
Voilà, c'est ça la question, c'est que finalement il y a eu toujours autant de monde en fait qui voudrait travailler dans la presse, semble-t-il, hein, et qui sont prêts à tout finalement pour intégrer le secteur.
Sauf que maintenant, en dehors du fait qu'ils fassent du papier, c'est-à-dire de la presse écrite, c'est-à-dire de la mise en page classique sur Express ou InDesign, on leur demande en plus de formater tout ça pour faire sur le net. Ah. Avec de l'animation, ça c'est un petit plus dans ces cas-là, parce qu'on choisit ses stagiaires maintenant. Mmh. C'est-à-dire que les stagiaires qui cumulent plusieurs possibilités, qui font pas seulement de la mise en page, mais qui font en plus de l'animation, et puis en plus d'autres trucs, de la DAO, des choses comme ça, c'est bien, c'est un plus, et on va les payer pareil.
Oui, bien sûr.
400 euros plus les tickets restaurants. Je veux dire, on en est là quand même. Hein.
Ouais, et ils acceptent son problème parce qu'ils n'ont pas d'expérience.
Ils acceptent parce qu'il n'y a pas d'expérience. Et oui, donc ils veulent avoir un peu d'expérience.
Ils sont obligés d'entrer. Eh bien, on va se retrouver dans 5 minutes après une petite coupe. Pause.
D'entre eux, ce qu'est le système de retraite. Là, les choses seront toujours douces, transparentes et claires.
Une réforme douce que chante le gouvernement. N'ayez pas la frousse, vous n'êtes plus des enfants. Une retraite douce qui sera pour toi si t'es vieux. Et si sans secousse, t'as survécu de ton mieux. Allez, bonne nuit les enfants.
Dans 2 ans, au revoir monsieur dame. Je serai à l'échelon 7, les mômes sont élevés. J'ai ma cabane en Dordogne. La retraite, faut la prendre jeune.
Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde.
Oui, bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de la bande FM et c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission d'agir ensemble contre le chômage. Écoutez, c'était un super dialogue là sur la retraite.
En tout cas, c'est vrai que la retraite, il vaut mieux la prendre vivant, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr. Et si on peut la prendre en bonne santé et tôt, c'est...
Ah bah c'est encore mieux. C'est le petit plus ça.
Et alors, on reçoit à cette émission Bruno Mécano, qui est l'animateur de l'émission suivante, et qui nous parlait de son expérience dans la presse écrite. Et il y a quelque chose que tu disais qui était intéressant. T'as dû gérer, toi, quand même, tous les changements technologiques, la PAO, l'arrivée du net. Est-ce que pour toi, c'était naturel de te former en tant que salarié?
Non. Ah non, moi, j'étais flippé comme un rat mort. Moi, je voulais pas du tout. Mon patron, à l'époque, c'était à Guépier, donc il me disait, mais t'inquiète pas, Bruno, t'auras une souris entre les mains. J'ai mis du sous de ma gueule. Qu'est-ce que je vais faire avec une souris entre mes mains? Mais j'ai prenais ça au premier niveau de la chose. Et il me dit, mais non, mais une souris, fais pas le con, tu sais ce que c'est. Ben, j'ai dit, ouais. Non, mais cela dit, c'est vrai que moi, ça a été un passage pas douloureux, mais avec une grande inconnue. Et ouais, ça m'a fait peur quand même. Je veux dire, je me dis, merde, comment je vais réussir à faire ça? Après, effectivement, au fur et à mesure. Et puis après, vous imaginez pas, parce qu'à l'époque, on était encore en hebdo, donc hebdomadaire pour ceux qui nous écoutent, c'est toutes les semaines. Les bouclages, on avait 2 bouclages. Et quand tout ça s'est mis en route pour tous les journaux, hein, les bouclages, il fallait envoyer tout ça chez l'imprimeur. Et il y avait un truc qui s'appelait un modem. Enfin, c'est pas le même groupe. Hein, mais il fallait envoyer tout ça directement chez l'imprimeur. Et en face de nous, on avait des gens qui étaient comme nous, qui ne connaissaient absolument pas le truc. Donc, il y avait des trucs. Quand le journal arrivait à passer entièrement, on était content. Mais souvent, on était bloqué jusqu'à 3-4 heures du matin parce que ça bloquait une fois, deux fois. Et quand ça passait pas, ça passait pas. Et le journal, il fallait qu'il soit en kiosque le lendemain matin. Donc, il fallait que ça passe dans la nuit.
Réessayer à chaque fois.
Et réessayer.
Mais ça, c'est là aussi, j'ai envie de dire aussi, c'est la magie de la presse, en tout cas de la presse écrite, c'est-à-dire que le bouclage, quoi, hein, qui termine, et ça fait aussi partie de l'expérience.
Oui,
même si c'est.
Gros stress, quand même, un bouclage.
Ah, c'est toujours du gros stress, et après, c'est vrai que pour décompresser, généralement, on allait boire un petit coup dans un bar après, parce qu'il fallait vraiment décompresser. C'était quand même des grosses tensions.
Voilà, alors c'était une autre époque, c'était joyeux. Alors, tu racontais une chose, c'est que ce qui se perd, en fait, avec. avec ces changements incessants, cette rotation incessante des salariés, en fait, des stagiaires.
Bah oui.
Ce qui se perd finalement, c'est la transmission.
Oui.
Et c'est aussi le savoir-faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de référent.
C'est le relais que les gens faisaient avant, qu'ils ne font plus maintenant. Maintenant, c'est comme tout, hein, c'est la société, on est très jetable. C'est-à-dire qu'on estime qu'un gobelet, on peut le jeter par terre, on prend un autre gobelet propre. Ben là, on est dans le même cas de figure, en fait.
Sauf que c'est nous maintenant.
C'est les êtres humains maintenant, c'est les individus. Et ça, c'est très. Enfin, moi, je trouve ça épouvantable, je trouve ça dégueulasse. Moi, j'ai vu passer un nombre de gamins et de jeunes filles qui arrivaient dans ma boîte précédemment, où j'ai été viré, mais qui étaient jetables, quoi. 400 euros par mois, de toute façon, ça prend, on ne prend pas de risque. Et puis, il y aura toujours mieux. Et puis, de toute façon, s'ils ne sont pas contents, la porte est là. Ouais. On est dans ce cas de figure-là. Et on leur demande les mêmes choses.
Qu'il y a des salariés
qui ont de l'ancienneté comme moi j'avais à l'époque et qui ont des compétences qu'ils n'ont pas, mais on leur demande la même chose. Il se trouve que bon, moi j'ai donné des petits coups de main à quelques-uns pour se barrer, pour aller ailleurs, parce qu'ils avaient des compétences que je n'avais pas moi forcément, par rapport aux nouvelles technologies en tout cas, et j'aurais donné un petit coup de main pour se barrer ailleurs dans des boîtes qui leur proposaient un vrai salaire, parce que faut pas déconner non plus. Je veux dire, on peut pas non plus exploiter des gens comme ça sous prétexte qu'ils sont en formation, en stage, c'est quoi ça?
Oui, alors c'est vraiment bon, le salarié jetable, et puis surtout l'espèce de turnover en fait qu'on a besoin pour des besoins presque managériels finalement de virer les gens qui sont les plus compétents, les plus syndiqués,
juste pour un profit, hein, c'est tout. Hein. On est juste pour une question de rentabilité, et de faire que l'argent rentre dans la boîte. On est dans ce cas de figure là. Point barre. Ouais.
Et tu penses que avec le recul, hein, les journaux dans lesquels travaillais, on avait ce genre de pratique, étaient des journaux qui avaient du mal à être équilibrés? C'est ça la vraie question.
Non, mais les journaux, moi j'ai travaillé dans divers journaux, je peux en citer un parce que je suis pas assez très longtemps, mais c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé. Mais c'était un peu loin parce que c'était à Boulogne à l'époque, c'était le groupe Bonnier qui a été aussi racheté, bouffé par un gros conglomérat, qui à l'époque faisait des maisons de bricolage, qui faisait la maison de mon jardin. Et j'avais retrouvé même des copains à moi, des Arabiques, qui étaient là-bas. En tant que maquettiste, DA, comme moi. Parce qu'on a fait office de distinction entre les directeurs artistiques et les maquettistes, mais à l'époque, nous, on faisait office de directeur artistique et maquettiste. On faisait les deux en même temps. Et on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour nous dire « Fais ça comme ça ». Non, on sait faire notre boulot. Et eux avaient cet esprit de transmission. C'était un groupe familial à l'époque. Il y avait M. Bonnier, qu'on croisait dans l'ascenseur, qui disait bonjour à tout le monde. Il y avait, voilà,
alors peut-être... Il y avait une identité...
Identité, alors peut-être un peu paternaliste, soit, mais pour autant, dans la conjoncture actuelle et dans les rapports humains, dans le travail qu'on peut vivre maintenant, quelque part, on peut se dire, on peut regretter ce paternalisme-là, j'entends, hein. Pas tous les paternalistes. Hein.
Oui, le paternaliste d'Alain Riache, par exemple, mais qui était un précurseur, ceci dit, hein, dans la gestion des salariés.
Oui, est-ce que tu as vu une différence entre les je ne sais pas si tu l'as vécu, mais entre les patrons qui étaient des directeurs de presse parce qu'ils étaient anciens journalistes, et des patrons qui sont en fait des communicants, marchands d'armes, ce genre de choses, ça avait une grande différence.
Oui, bien sûr. Bonnier, par exemple, était un ancien journaliste. Et puis, j'ai vécu avec 12 entreprises aussi où on avait à la tête un mec qui connaissait la presse. Moi, je suis arrivé même dans une boîte où le patron, c'est un comble quand même. En tant que maquettiste, moi, j'étais arrivé avec un ami, Marc, que j'ai connu à Guépier, avec qui j'ai continué à travailler, qui était secrétaire de rédaction. Il nous avait proposé son bureau, qui était au dernier étage, qui était magnifique, pour faire la maquette.
D'accord. Ah oui.
Ah oui. Il avait dit, moi je vais aller ailleurs. Moi je suis pas là souvent, donc ça me dérange pas. Il était magnifique. À part que c'était en PAO avec les écrans. Son bureau était rempli de verre. Enfin, c'était transparent. D'accord. Donc les reflets dans l'écran, ça passait pas. On lui a dit non, on va rester dans le sous-sol. On était dans le sous-sol à l'époque. Mais on préférait rester dans le sous-sol parce qu'on avait moins de lumière. Mais cela dit, ce mec-là nous avait proposé ça. Oui. Et j'avais été sur le cul. Moi je dis, c'est le patron. Il nous propose son bureau. J'avais trouvé ça qui était immense, hein. Je parle de bureau, c'était 200 mètres carrés quand même, hein.
Donc, c'est presque la Startup Nation.
Non, je
plaisante, mais il y a un côté un peu à la fois familial, mais surtout ce qui est important, c'est ce que tu fais en fait, la finalité, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les boîtes où il y a une espèce de... Alors justement, à un moment, toi, est-ce que tu as vécu cette espèce de concentration qu'on a vécu, hein, qu'on a tous vu dans les groupes de presse, et notamment l'arrivée aussi des fonds de pension,
c'est ça,
comme on voit aujourd'hui?
Moi, ce que j'ai vécu, c'est pas ça tout à fait, mais cela dit, moi j'ai vécu 4 achats, c'est-à-dire que j'ai été racheté 4 fois. par différentes entreprises. À chaque fois, on nous disait tout va aller bien, ça sera mieux, on va faire une fusion, patati. Bon, moi, je suis passé sur 4 achats, j'ai jamais été viré. J'étais viré au 4e, mais j'ai vécu 4 achats. Et sur ces 4 achats, j'ai vu partir quand même beaucoup de gens au fur et à mesure. C'est-à-dire que ceux qui étaient au premier achat se faisaient virer toujours les premiers. Il y avait des crémages. Et puis à la fin, ça a été une totale, quoi. Je veux dire, ça a été le champagne. Et là, on a viré carrément la totalité.
Et c'était des rachats pour déficit?
Pas du tout.
Pas du tout. C'est parce que c'était profitable. Oui, c'est ça.
C'était profitable. Non, c'est pas pour déficit. Non, ça, c'est des plans qu'on fait, on dirait, entre guillemets, pas à l'amiable. Oui, c'est à l'amiable, entre guillemets, à l'amiable. Mais on va te dire que, bon, voilà, je veux dire, on se sépare de toi parce que la conjoncture, parce que patata. Avant Covid, je parle de ça. Hein. Et donc, ça s'est fait, mais on a même viré des gens que, bah, comme moi, qui étaient près de la retraite, je veux dire, et sans aucun scrupule, rien à foutre. Avec des clients qui sont entre-temps partis, après mon départ. Parce que c'est des clients qui étaient fidèles plutôt plus à moi qu'à la boîte en question.
Alors justement, tu parles de la sous-traitance aussi, ce qui est un aspect qui s'est introduit dans le métier. On sait que la sous-traitance tire vers le bas. Hein, les
freelances, c'est épouvantable. Moi, j'ai encore 2 copines qui sont freelances et qui tirent le diable par la queue, qui sont payées une misère et qui sont obligées de multiplier un tas de boulot pour pouvoir vivre correctement.
Et donc, ça se généralise aussi, ça a tendance à se généraliser.
Ah bah oui, c'est sûr que les boîtes... bon, au bout d'un moment, moi, j'ai déjeuné avec une amie à moi qui est dans une boîte à l'heure actuelle et qui me dit, bon, au bout d'un moment, quand tu fais 5 mensuels par mois, plus on va te demander la trimestrie à la faire à droite, plus des trucs, et ben, au bout d'un moment, on ne peut plus faire. Je dis, à part, même si on bosse 10-12 heures par jour, ce n'est pas possible. Donc, on fait appel à des freelances. Mais les patrons font la gueule. Parce que ça leur coûte de l'argent. Vu qu'ils ont bradé les prix, ben, ça les fait chier de payer, en plus des freelances qui vont payer une misère. Ben, on est dans un truc absolument abominable, quoi.
Oui. Et justement, donc c'est peu avant le Covid, hein, donc que là tu as connu ta dernière expérience, alors que t'étais pas très loin de la retraite.
Oui.
Paradoxalement, je dis ça, c'est que tu aurais pu être licencié peut-être pour longue maladie auparavant.
J'aurais pu être licencié pour plein de choses. Mais non, mais là il y avait un groupe. Enfin, il y avait, on a fait une grosse charrette, et puis on a mis tout le monde dedans, et puis on en a gardé 3 ou 4. Basta cosy. Et c'était bien, quoi.
Oui, je veux dire. Un truc qui est très d'actualité, comme on le voit par exemple
comment peut-on faire marcher un journal à 4 alors qu'on en avait 50 au départ?
On fait appel à des freelances, on fait appel. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été remplacé par une freelance, par exemple, qui n'était pas intégrée à la boîte, qui n'était pas salariée, qui payait pas de charges, donc ça leur coûtait rien. Donc ça va très très vite dans ces cas-là. Puis l'économie est vite faite, hein, je veux dire, il y a les tableaux, c'est du Excel, hein, on calcule, on voit la rentabilité, et puis voilà. Et puis le coût est vite amorti. Hein, je veux dire, y a pas... Après, la compétence, c'est pas là. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut pas non plus prendre les clients pour des cons, et puis il y en a qui s'en vont, qui vont ailleurs pour essayer de trouver ce qu'ils avaient avant.
Oui, et puis aussi pour maintenir aussi une qualité peut-être relationnelle.
Après, moi, vu l'âge que j'avais, c'est vrai que vu les conditions dans lesquelles je suis parti, on m'a proposé un CSP, après j'ai eu 2 ans de chômage, je suis encore à l'heure actuelle dans cette situation, à part que je vais entamer normalement ma retraite à partir du mois d'octobre. Mais je trouve ça dommage de finir comme ça.
Alors finalement, c'est des choses qui sont passées par exemple à Canal+ aussi, enfin dans d'autres secteurs de la...
Tu vois, Europe 1 à l'heure actuelle, ce qui se passe. Comment on va renouveler un petit peu le staff. Ils ont reculé visiblement, ce que j'ai en tout cas vu aujourd'hui, c'est qu'Europe 1 a reculé par rapport à la rédaction en chef de la rédaction, parce que c'était un mec qui vient de Valeurs Actuelles. Bon, là, finalement, il sera un petit peu à l'écart, il sera pas complètement... Il y a un mec qui aura quelqu'un devant qui fera tampon. Mais je comprends l'inquiétude des gens d'Europe 1, parce que là, on est dans une ligne éditoriale qui va se ressembler plus à CNews avec Zemmour. Et voilà, donc on est en plus en période électorale, parce qu'on est un an de la présidentielle. Ça peut avoir aussi des dommages collatéraux.
Est-ce que du point de vue du contenu, toi, tu penses avoir vu évoluer la presse par rapport à l'époque où tu y travaillais?
La presse... Moi, je la lis encore, hein. Je veux dire, je suis quand même encore amateur, mais pour autant, à une époque, c'était très uniforme. On en parlait juste avant l'émission, c'est peut-être un peu plus radical maintenant, mais je sais pas si c'est dans le bon sens. C'est ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est que là, maintenant, ça devient peut-être plus radicalisé. Mmh.
Et
c'est
presse peut-être d'opinion, pas... peut-être plutôt. Ouais.
Presse d'opinion. Pourquoi pas ? Je veux dire, j'ai rien contre les presse d'opinion, ça a toujours existé. Mais pour autant, est-ce que c'est bien ? Parce que là, ça vient, bah, qu'on voit par exemple à la télé. Je veux dire, là, en l'occurrence, c'est pas la presse écrite, mais la télé ou Valeurs Actuelles. On reparle de presse écrite là. Mmh. Quand on voit les unes de Valeurs Actuelles, ça fait peur quand même. Ah, moi, je suis désolé. Et là, on est dans la presse d'opinion pure et dure. Je trouve que la presse, on va dire, une presse objective, c'est vrai que moi, je pense à Mediapart, qui n'est pas sur papier, mais qui est sur écran. Mais pour autant, eux, ils font les choses. Après, c'est vrai qu'on a discuté aussi avant. Il y a aussi quelques petits... petite niche où on peut trouver les informations un petit peu différentes. Et après, et c'est vrai que je vais revoir le film de Costa Gravas qui parlait de ce qui s'est passé en Grèce avec la faillite de la Grèce. Et c'est vrai que dans ce film.
Il faut un adulte dans la pièce, c'est ça.
Ça, c'est incroyable quand même. Il faut un adulte dans la pièce. Alors qu'il y a tous les gens qui sont là du FMI. Ça, c'est un truc. Mais je ne comprends pas, c'est Lagarde qui dit ça. Et à un moment, il y a un compte-rendu du ministre de l'économie grecque qui dit la phrase pour je ne sais combien de médias. Et il n'y a pas un média qui dit, qui répercute en tout cas ce qu'il a dit de la même manière. Et on peut dire, on peut avoir quelqu'un qui dit une chose et l'interpréter de manière complètement différente et de mille façons.
Voilà. Donc là, comme vous l'avez compris, chers auditeurs, la presse est aussi une question d'interprétation. En fait, quand vous écoutez, c'est que vous adhérez à ce qu'on vous dit. Bon, là, on est entre gens de FPP qui sont convaincus. Alors, pour finir, Bruno, parce que j'imagine que toi-même, tu as ton émission à préparer. En fait, quand tu t'es retrouvé comme ça, on va dire sur le carreau, mais j'imagine quand même avec une forte indemnité
une indemnité qui me paraissait être complètement normale.
Oui, tout à fait.
Et en plus que j'ai négocié, parce que vous imaginez bien qu'en face, ils voulaient négocier par le bas.
Donc tu es devenu riche, alors.
C'était une bagarre, quand même.
Mais à quelques années de la retraite, sans vraiment l'avoir choisi, le moment où tu la prendrais, comment toi, tu as pris ça?
C'est jamais agréable. Même si on n'est pas mécontent de s'éloigner de con, mais cela étant, ouais, c'est pas agréable, quand même. Parce qu'on a quand même un ressenti et de se dire qu'on a quand même fait un boulot qu'on connaissait bien, qu'on maîtrisait plutôt bien, c'est pas grave. Après, effectivement, j'étais plutôt pas mécontent de partir. Et puis après, ce qui a suivi, en fin de compte, moi j'ai eu droit quand même à un accompagnement via Pôle emploi, voilà, qui était plutôt.
Oui, parce que c'est un licenciement économique peut-être.
Oui.
Considéré comme... D'accord, donc du coup, tu as la prise en charge maximum.
J'ai eu droit à un CSP, après j'ai eu 2 ans de chômage. Et je dois dire que par rapport à cet accompagnement, j'ai rien à redire parce qu'ils ont été vraiment. Tout à fait, vraiment dans l'accompagnement, dans l'écoute. Ils ont vraiment été très très bien. Voilà.
Oui, ils n'ont pas mis de la pression pour que tu retrouves du travail.
Non, s'imaginaient bien que, en plus, moi j'ai commencé très tôt à travailler, donc j'avais mes trimestres qu'il fallait. Donc non, j'avais eu de pression. Après, j'ai eu un accompagnement en revanche, c'est vrai que j'ai eu une écoute. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et je me dis que moi, le peu de fois où j'ai pu aller, parce qu'avec le Covid, effectivement, il n'y avait plus présentiel, ça passait beaucoup par téléphone. Là, actuellement, je suis accompagné par quelqu'un au téléphone, qui est tout à fait agréable, mais le peu que j'ai vu à Pôle emploi, c'est quand même terrible, quoi. Je veux dire, je vois des gens hurler, de gueuler, et moi, la première fois où j'y suis allé en présentiel à Pôle emploi, et j'ai dit, mais c'est comme ça tous les jours, ils m'ont dit, mais vous imaginez pas, c'est comme ça. Mais bon, je comprends aussi la pression des gens. Je connaissais pas du tout ce Pôle emploi, parce que je suis jamais allé auparavant, donc c'est comme ça tous les jours, et ils m'ont dit, ben oui, on est obligé de faire avec. Alors, je dis pas qu'il y a des gens qui sont pas en souffrance, hein. Je pense qu'il y a des gens en souffrance. Mais cela étant, c'est vrai que ils se font insulter, ils se font traiter de tous les noms, quoi.
C'est sûr. Mais après, il y a eu beaucoup de réformes de Pôle emploi, hein, qui avant étaient la NPE, une fusion. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de dossiers à traiter. Donc, finalement, il y a une lourdeur administrative.
Absolument.
Nous, comme on dit, cette émission, c'est un traitement administratif du chômage. C'est-à-dire que Pôle emploi, c'est pas Pôle emploi qui va retrouver un emploi.
Pôle emploi, le sentiment que j'ai eu, en tout cas, et en voyant un petit peu tous les gens qui étaient présents là, qui sont là, évidemment, dans une demande, et puis beaucoup plus urgentement que la mienne, hein. Mais j'ai l'impression qu'on vidait les poubelles sur Pôle emploi, quoi. On vide tout. On vit tout ce qui va pas bien, voilà, on leur met sur la tête et on dit vous vous démerdez avec ça. Et on a en face des gens qui savent pas quoi faire, quoi, parce qu'ils ont rien à proposer. Mais c'est pas de leur fait. Ils ont rien à proposer.
Parce que 10 fois moins d'offres d'emploi à Pôle emploi.
Ils ont surtout une surcharge de travail parce qu'ils ont des dossiers. Ils ont 160, je sais plus, par personne.
C'est hallucinant.
Les portefeuilles de dossiers, c'est incroyable.
Oui, puis il y a des gens qui disent, par exemple, moi, j'ai jamais reçu de nouvelles de Pôle emploi. Il y a des gens qui sont étonnés après 2 ans d'avoir un coup de fil de Pôle emploi. Mais des gens qui n'ont pas le temps de gérer ça, quoi.
Bien sûr.
Et on devrait mettre beaucoup plus de gens à Pôle emploi. Je suis désolé, mais on devrait recruter à Pôle emploi, là.
Tout à fait. On est bien d'accord, puisque on n'est pas une émission contre Pôle emploi, ici. Est-ce que, finalement, l'expérience de la presse écrite parisienne, donc c'est à la fois
c'est des bons souvenirs.
Voilà, c'est des bons souvenirs.
C'est des bons souvenirs, et puis j'espère que les gens vont quand même. Quand je vois les kiosques quand même qui sont vidés de plus de la moitié de
ce qu'il y a. C'est ça, c'est que l'avenir de la presse écrite est quand même très menacé. Ouais. On a peu parlé de ça, hein, du fait d'Internet.
Pour les jeunes qui nous écoutent, en l'occurrence, il faut, quand on est en vacances, au lieu de prendre son portable et puis se mettre le nez dessus pour lire des papiers, acheter le journal.
Bien sûr.
Voilà, et ce sera le mot de la fin. Merci Bruno.
Merci à toi. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires du groupe historique d'AC Agir ensemble contre le chômage. On reprend donc avec Ludo. Salut.
Bonsoir.
Ludo. Gilles également au micro et Claude à la technique. Donc Ludo, la Cour des comptes a pondu un rapport en 2019, je crois, sur le fait de pousser la retraite jusqu'à 64 ans.
Alors, pas tout à fait.
C'est quoi exactement?
C'était en juillet 2019. Hein, les effets du recul en fait de l'âge du départ à la retraite.
C'est ça.
Les effets. Et pourquoi en fait on en parle, c'est que notre président bien aimé, Monsieur Macron, pourrait annoncer un possible recul de l'âge de la retraite, de l'âge du départ à la retraite, et il pourrait le repousser à 64 ans. Et donc c'est vrai que ce rapport était passé un peu à l'as. Alors heureusement, c'est la revue Rapport de Force qui rappelle ce qu'il y avait dedans. Et donc, comme on peut s'en douter, c'est le rapport de la Cour des comptes qui précise que ça n'a pas les effets escomptés sur le retour à l'emploi. Puisque vous savez que l'argument du gouvernement, c'était finalement, on a un taux d'emploi des seniors, entre guillemets, donc des 58, 60, 70 ans, qui est beaucoup plus faible que dans les autres pays européens. Et donc, c'est donc un argument, le fait qu'il faut travailler plus. Or, aujourd'hui, la Cour des comptes constate qu'en réalité, l'âge moyen du départ des salariés du privé, les plus nombreux, étaient de 63,4 ans en 2017. C'est-à-dire que malgré la réforme, les salariés du privé, dont la durée de cotisation doit atteindre... Alors, c'est la durée de cotisation, effectivement, atteint 42 ans, mais c'est surtout que le calcul est sur les 25 meilleures années.
C'est ça.
C'est assez terrible. Et donc, effectivement, ils ont tendance à repousser les années de la retraite pour augmenter leur salaire. Donc voilà, 63,4 ans. Bon, d'où la nécessité, entre guillemets, de repousser l'âge de la retraite. Bon. Alors, l'argument de faire travailler plus longtemps les Français... Ne tient donc pas à l'épreuve des faits, dit le journal en ligne. Le nombre de chômeurs de plus de 50 ans a été multiplié par 2 depuis 2008, selon les données de l'INSEE. Et pourquoi, en effet, c'est que les employeurs, eux, allongement du départ de la retraite ou pas, c'est pas leur souci, comme on a parlé tout à l'heure. Il s'agit bien, en fait, de faire des économies sur le dos des personnes les plus âgées et de moins les payer et de les virer avant la retraite. Et même par 3, précise, pour ce qui est des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire de chômeurs en catégorie anarchie totale. Donc, comme le rappelait Laurent Berger, qui est pourtant pas Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui est pas quelqu'un d'extrême gauche. Cela cache simplement le recul de l'âge de la retraite cache mal une mesure budgétaire brutale et injuste. Oui, c'est ça, une mesure budgétaire. Alors, à n'en pas douter, un nouvel allongement de la durée du travail avant de pouvoir partir à la retraite aura le même effet que le recul de 60 à 62 ans en 2010 de l'âge légal de départ. Augmenter le nombre de seniors ni en retraite ni en emploi, c'est ça cet effet, c'est-à-dire en attente de liquider leurs droits pour bénéficier d'une pension. Ce nombre est évalué à 30% des plus de 60 ans pour la période de 2016-2018. Ce qui fait dire à la Cour des comptes que les performances sont restées médiocres jusqu'à présent en termes de maintien dans l'emploi des seniors de 60 ans et plus. Donc on aurait pu s'en douter, hein, très franchement, et se douter que les arguments pour allonger les durées de cotisation sont autres que ceux qu'avance le gouvernement. Et ce pour une raison assez simple, les employeurs préfèrent se séparer de leurs salariés les plus âgés, considérés comme moins productifs et onéreux. Alors, il y a quand même une conséquence directe, hein, c'est que tout ça favorise la précarité des seniors, puisque si vous allongez l'âge de la retraite, les indemnités chômage ne vont pas couvrir toute la période qui va jusqu'à votre retraite. Et donc, il y a une augmentation des bénéficiaires de l'allocation d'aide de retour à l'emploi. Bon, ça, c'est... Alors, c'est les fins de contrat en CDI des seniors. Puis de l'allocation spécifique solidarité quand on n'a plus rien, ainsi que des minima sociaux, ce qui constitue une trappe à précarité, selon la juridiction financière du Palais Cambon. Ainsi, depuis 2010, date du dernier recul de l'âge légal du départ à la retraite, les allocations versées au titre de l'ARE aux 60-64 ans ont augmenté de 45%. Celles concernant l'ASS de 75% et enfin celles correspondant au RSA de 157%.
Ah oui, quand même.
Donc c'est vous dire que oui, les ARE aujourd'hui, ben, vous avez 2 ans d'ARE, je ne sais pas quelle est la limite légale, hein, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Ensuite, vous avez une lente descente, pour peu que vous ayez été viré, mettons à l'âge raisonnable, de 55 ans par exemple. Voilà, donc aujourd'hui, le basculement d'une partie des salariés âgés de 60 à 64 ans vers les minima sociaux ou les allocations chômage coûte 1,5 milliard d'euros à la collectivité, par an, hein, je précise, et à la protection sociale et à la solidarité nationale. Donc cette somme ne prend pas en compte l'augmentation des invalidités, liée à une durée du travail pour plus longue et à l'usure plus intense des corps. Des sommes allouées au titre de l'allocation adulte handicapé, l'AH, ont bondi de 288% entre 2010 et 2018. Des sommes appelées à croître si Emmanuel Macron confirme le relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans. Voilà, donc le coût social et humain est terrifiant pour des centaines de milliers de salariés ayant travaillé près de 40 ans, selon leur parcours sur un marché du travail de l'emploi impitoyable, une sorte de quoi qu'il en coûte, inversé, si exécutif confirme ses intentions austéritaires alors que le pays n'est même pas encore réellement sorti de la crise sanitaire.
Eh bien, dis donc. Donc ça veut dire que la retraite à points est
alors ça, on ne sait pas, puisque je vais pas m'avancer, hein, puisqu'on est quand même à moins d'un an de l'élection prochaine, de la prochaine élection présidentielle, donc on voit difficilement Macron mettre sa réforme en œuvre et se représenter à la mandature, mais on ne sait pas, peut-être qu'il va complaire aux gens qui l'ont élu, hein, cette promesse, et tenter de mettre ça en action.
Très bien, merci à toi. Donc il y avait également un autre sujet qui est assez intéressant, c'est la réponse de Christine Lagarde au syndicat dans le cadre de l'assurance chômage.
Alors ce n'est pas Christine Lagarde, c'est Elisabeth Borne qui est là, qui est effectivement notre ministre du Travail. Alors effectivement, Elisabeth Borne a fait savoir en fait dans les médias qu'elle ne lâchait rien. Qu'elle contestait la suspension de la réforme du chômage par le Conseil d'État et qu'elle avait bien l'intention, sans attendre, a-t-elle dit de façon subliminale, hein, c'est-à-dire sans le dire, sans attendre la réponse sur le fond de la Cour du Conseil d'État, peut-être de représenter un décret pour que cette réforme rentre en vigueur dès le 1er octobre. Alors, oui, pour rappel, hein, comme vous le savez, le Conseil d'État a suspendu la réforme, mais suite à un référé qui a été demandé par les syndicats. Okay. Et donc, quand vous prenez une décision, quand vous saisissez en référé la Cour, c'est une décision qui est rapide. Donc, elle juge sur la forme ce qu'elle a fait et elle a renvoyé sa décision sur le fond dans 3 mois, en fait. Hein. Donc, enfin. Plus ou moins, on ne sait pas exactement. On est donc peut-être à octobre ou peut-être plus tard. Et donc, ce qui fait dire aux syndicats que si un décret est pris avant par le gouvernement, d'abord ils saisiront à nouveau le Conseil d'État, mais ils saisiront aussi la Cour constitutionnelle pour ne pas avoir respecté en fait la décision du Conseil d'État. Donc on attend. Denis Gravouille, qui est le négociateur de la CGT, lui précise quand même que dans cette fameuse réforme, vous savez, la réforme des allocations chômage consiste en fait à dans son corps principal, à vouloir lutter contre les contrats courts en limitant en diminuant les indemnités des bénéficiaires de l'ARE en fonction de leur durée du travail, c'est-à-dire si eux-mêmes ont travaillé en contrat court, leurs indemnités seront baissées d'autant. Donc c'est une réforme qui se fait un peu sur le dos des précaires, comme d'habitude. Mais il y avait ce fameux malus, bonus-malus, dont il était question, de l'imposer aux entreprises en fonction de qu'il y aurait un usage trop élevé des contrats courts. Or, cette mesure rentrera en vigueur en réalité en fin d'année 2022. On se demande pourquoi. Mmh. Alors, Denis Gravouille rappelle qu'en réalité, ce bonus-malus ne concerne que un secteur et qu'il touche extrêmement peu d'entreprises. Je vais même vous dire le chiffre, puisque le sortir, 21 000 entreprises. Et donc, ce qui lui fait dire que tout ça est une tartufferie, ces histoires de bonus et de malus dont on parle depuis plusieurs années, et que la réforme vise bien, d'abord c'est une réforme comptable, et qu'elle vise bien quelque part à se faire sur le dos des chômeurs et des précaires.
Très bien, Ludo. Alors, il y a également, donc moi, juste avant que tu parles du dernier sujet que tu as, moi, je voudrais quand même dire 2 mots les auditeurs, auditrices qui auraient des enfants scolarisés en 3e et qui ont donc l'obligation d'aller en lycée, évidemment, en seconde, l'année prochaine, pour le coup. Alors, il y a une chose qui s'est produite, c'est que, effectivement, dans le cadre de AFELNET, donc cette. Ce logiciel du ministère de l'Éducation nationale qui broie un petit peu les chiffres, qui prend tous les élèves dans le logiciel et qui mélange tout et qui aléatoirement donne des affectations par élève de façon complètement aléatoire pour le coup. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui 240, à Paris, 240 élèves du public qui sont sans affectation. Et 160 élèves du privé sans affectation. Ça veut dire que sur l'ensemble des Parisiens scolarisés en 3e, il y a à peu près 400 élèves qui se retrouvent sans lycée pour l'année prochaine.
Ah, c'est incroyable. C'est le nouveau Parcoursup, quoi, en fait.
C'est le nouveau Parcoursup. On a eu Parcoursup, on a eu la réforme du bac, la réforme du brevet, et là, on a maintenant AFELNET qui broie les élèves. Alors, il faut savoir que AFELNET prend en plusieurs critères en compte. Il prend d'abord le CSP des parents. Évidemment, la moyenne générale.
Le CSP, c'est le niveau, la catégorie sociale des parents.
Sociale professionnelle des parents, absolument.
C'est scandaleux.
Ils prennent évidemment la distance entre la maison et le lycée, mais ils prennent aussi éventuellement, donc évidemment, tout ce qui est de l'ordre de la notation, les notes.
Oui, le dossier. J'allais dire le dossier.
Le dossier scolaire, enfin, oui, les livrets, quoi. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, il y a eu une demande faite par les écoles auprès des élèves pour qu'ils fassent 8 choix de lycée avec ce qu'on pourrait appeler des options. Les options en seconde et les spécialités en première. Bon. Il faut savoir que l'option et la spécialité, c'est tout nouveau dans l'éducation nationale, puisqu'avant, quand nous étions, nous, à l'école, si je me souviens bien, on rentrait dans un lycée. On faisait toute la scolarité dans le même lycée.
Tout à fait, oui.
Voilà. Mmh. Et c'était peut-être pas génial, mais en tout cas, ça marchait, il n'y avait pas de souci. Ouais. Depuis qu'il y avait une nouvelle réforme, ça cafouille de tous les côtés. il se trouve que pourtant l'idée de départ est bonne, c'est-à-dire que l'option et la spécialité, c'est une offre de formation supplémentaire donnée aux élèves avec une multitude de d'offres. Théâtre, danse, toutes sortes de choses.
Est-ce que c'est pas utilisé pour comme stratégie sélective en fait, peut-être à la fois par les établissements et par les parents.
Complètement. Alors un exemple, tu as par exemple des élèves qui avaient à peu près 18 de moyenne, ils ont fait 8 vœux et c'est leur 8e vœu qu'ils ont pris par défaut qui ont été acceptés. On se demande pourquoi. Et un élève qui a 14 de moyenne va aller dans l'école réputée meilleure que les autres, tant mieux pour lui. Mmh. Par contre, l'élève qui devait y aller, qui se retrouve à aller à un autre endroit, ben, il est évidemment déçu pour le coup, ainsi que ses parents.
C'est presque une façon de, remettre en cause la carte scolaire telle qu'elle
existait. Tout à fait.
Puisque
exactement.
Si on privilégie certains élèves du fait de l'option par rapport à d'autres. Oui. Et donc, du coup, oui, c'est l'autonomie, c'est une forme d'autonomie laissée au lycée, qui avait déjà il y avait déjà les bons lycées de France, comme on dit.
Voilà. Tout à fait. Alors, il y a un truc, c'est que il y a deux tours. Il y a un premier tour où tu as 8 choix à faire. Sur donc cinq lycées de ton secteur, donc proche de chez toi, et 3 que tu dois mettre en plus, qui sont sur le secteur 2, c'est-à-dire l'arrondissement à côté, c'est-à-dire les 3 arrondissements qui sont à côté de chez toi, donc qui sont un peu plus loin. Sinon, tu es obligé de sortir de la carte scolaire, aller dans le privé, ou bien carrément aller sur un lycée qui se trouve dans le 13e, 14e. Ça, c'est le premier tour. Et généralement, les parents d'élèves font leurs 8 choix sur des collèges proches de chez eux. Et puis évidemment, 3 choix sont les options prévues par l'élève. L'élève veut faire de la danse, il est dans un lycée où ils font de la danse. Ça fonctionne. Sauf que là, il y a quand même 400 élèves qui n'ont pas d'affectation. Donc, ils sont obligés de s'inscrire. Ça, je leur dis, pour ceux parmi vous, auditeurs et éditrices, qui avaient des enfants en 3e et qui n'ont pas d'affectation, il faut s'inscrire d'abord dans un lycée et ensuite faire un recours. Parce que si on fait le recours avant de s'inscrire, si vous n'avez rien, vous n'avez absolument rien, il n'y aura plus de recours possible par la suite. Ça veut dire que c'est automatiquement le privé ou alors déménager pour obtenir une autre affectation.
Alors tu as dit quelque chose que je comprends. Est-ce que tu veux dire qu'en cours de scolarité au lycée, c'est-à-dire qu'on a commencé en seconde, on peut changer de lycée ou se retrouver sans affectation alors qu'on est déjà dans un lycée ? C'est possible ?
Exactement, c'est-à-dire que si jamais demain, par exemple, je prends un exemple, tu as des enfants qui sont en 3e et tu n'as pas d'affectation pour eux, demain tu fais des propositions pour le deuxième tour et que le deuxième tour t'est refusé pour X raisons, qui ne sont pas motivées d'ailleurs. Il n'y a pas de motivation sur les raisons de refus. Et ben, tu seras obligé ou bien de déménager pour refaire une demande sur un lycée proche de chez toi après déménagement.
Et si tu veux changer de lycée, alors lycée est obligé de te garder quand même.
Alors le lycée, non, tu pas, non, non, c'est justement c'est là où arrivent les recours. Mais il faut d'abord s'inscrire pour faire le recours. Si tu ne t'inscris pas, tu n'as pas de recours possible.
Tu peux t'inscrire dans le même lycée et ne pas être accepté dans le même lycée ?
Ah non, tu es obligé de changer. Non, tu es obligé de faire.
Changer de lycée.
Tu es obligé de changer de lycée. Voilà.
Donc, pour ta spécialité.
Donc, c'est un gros problème. Alors là, évidemment, tous les parents d'élèves sont vent debout contre cette chose-là. Donc, il faut absolument, si vous êtes dans ce cas-là, inscrire votre enfant dans un lycée, quitte à apprendre à lycée au hasard, mais choisissez-le quand même pas trop loin de chez vous. Parce que faire une heure de transport pour que l'élève arrive en seconde, c'est quand même un peu difficile. Et ensuite, vous faites le recours. Il y a une deuxième chose, c'est que pour les spécialités, principalement les spécialités pour les gens qui sont en seconde et qui arrivent en première, la nouveauté, c'est que maintenant, les spécialités ne sont plus du tout dans le même lycée de départ. C'est-à-dire que j'ai un enfant, par exemple, qui est dans un lycée X. S'il veut faire une spécialité qui n'est pas dans son lycée, il est obligé de déménager. Par exemple, le mercredi, il sera obligé d'aller sur le lycée Y, qui peut se trouver à un endroit extrêmement plus éloigné. Donc, ça veut dire que on est arrivé, si tu veux, à une offre de formation qui est très commerciale. C'est-à-dire que c'est plus du tout de la pédagogie. Ça reste de la pédagogie, bien sûr. Mais tu vois, on est dans un système où l'offre de formation, c'est un peu.
C'est chacun qui choisit, qui fait la carte. Quoi.
Et il faut savoir que les lycées, maintenant, choisissent sur dossier et choisissent. On ne connaît pas du tout les critères de choix de chaque lycée. D'accord. Et il y a un deuxième aspect que j'ai oublié de dire. Et après,
le ghetto de l'éducation.
Tout à fait. Il y a un deuxième truc, c'est que par rapport à ça, il y a le deuxième tour, c'est des lycées prévus, par exemple, pour Paris. Le deuxième tour, c'est des lycées qui se trouvent uniquement dans la périphérie de Paris. C'est-à-dire dans des quartiers extrêmement populaires où la politique de la ville n'a construit que des ghettos. Et donc, les lycées sont très mal, ils sont pas du tout réputés, c'est pour le coup, parce qu'il y a de la violence, il y a toutes sortes de choses, avec une population dont les parents sont socialement démunis pour beaucoup. Donc, tu as des élèves qui vont de familles qui habitent par exemple dans le 7e, qui vont se retrouver avec des enfants qui vont aller sur Porte-Champerre, par exemple. J'ai une bêtise, mais c'est à peu près l'exemple que je veux donner. Ça veut dire que là, il y a aussi un souci, c'est-à-dire que c'est de l'intégration, mais à l'envers, si tu veux. Tu vois, c'est le.
Ah oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à fait, oui. Okay.
Donc, c'est quand même très, très important, et donc, il faut absolument se mobiliser pour les parents qui sont dans cette situation. Rapprochez-vous éventuellement des syndicats ou des délégations de parents d'élèves, FCPE ou autres, hein, pour éventuellement faire une action commune au niveau du rectorat pour obtenir gain de cause, parce que là, on est dans le noir complet, quoi. Voilà.
Ouais, eh ben, voilà. On vous remercie alors,
Gilles
et Bruno d'avoir fait cette émission. Eh ben, écoutez, on dira ça quand on te réécoutera. voilà, non, mais je pense qu'effectivement, c'est un sujet important. Et donc, bah, tout de suite, c'est Stress et Mécano. Et voilà. Puis, bah, nous, on se retrouve probablement à la rentrée en septembre. Et on vous souhaite à tous de bonnes vacances. Et la semaine prochaine, ce sera Attaque.
Salut à tous, au revoir, ciao.
Bonne soirée à vous.